Bonjour Raymond Richard au micro. Pour cette émission Les mots de la foi, je retrouve Isabelle et nous parcourons la lettre au peuple de Dieu. Nous en avions déjà parlé dans notre dernière émission et on s'aperçoit que si elle s'adressait à l'Église, mais surtout après l'expérience chilienne où il y avait eu des abus et puis la démission de l'ensemble des évêques et donc des relations difficiles avec cette Église chilienne appelée à se transformer, on s'aperçoit que cette nécessité de transformation, ça n'est pas que l'Église chilienne, mais que c'est bien un certain nombre de lieux dans l'Église, parce qu'il y a eu justement ces abus sexuels, on les a retrouvés aussi en France. Et que cette lettre au peuple de Dieu, qui propose un chemin de pénitence, un chemin de jeûne, un chemin de retour vers Dieu, propose aussi de façon beaucoup plus concrète un certain nombre de points. Et notamment, le pape dit « tolérance zéro ». Mesures et sanctions nécessaires après les scandales, parce qu'il y a eu différentes affaires. Alors c'était la collusion entre la mafia et la Banque Vaticane. Dans certains cas, les lanceurs d'alerte de la Curie ont été condamnés, alors que en fait, c'est eux qui étaient plutôt du côté de la justice et du bon droit. Et il se trouve qu'en France, nous avons eu ce même problème. Donc le pape appelle à une culture de protection du peuple de Dieu, de protection des personnes.
C'était contre ces dérives pour le présent et l'avenir, par une transformation ecclésiale et sociale.
Oui, alors ecclésiale, donc de l'Église, convertir l'agir ecclésial, dit-il.
Oui, effectivement, il nous dit qu'il est impossible d'imaginer une conversion de l'agir ecclésial sans la participation de toutes les composantes du peuple de Dieu.
Voilà, ça c'est intéressant, parce que composante du peuple de Dieu, ça veut dire pas simplement les structures, le pape, les évêques, la curie, et puis les clercs, disons, mais le peuple de Dieu, c'est-à-dire tout le monde.
Oui, c'est curieux, parce qu'en fait, moi, je pensais que le peuple de Dieu il formait qu'un seul corps, composé de l'ensemble des baptisés dont nous faisons partie.
Oui, je crois que c'est toi qui penses bien, et puis le pape pense la même chose, et Vatican II aussi. Hein. Mais effectivement, on a tellement été habitués à obéir quelque part, ou à écouter monsieur le curé, monseigneur l'évêque, que finalement, il menait le bateau, et puis lorsqu'il y avait quelques troubles, bon, quelquefois on faisait le gros dos, ou l'autruche, c'est aussi pas mal de mettre la tête dans ça pour pas voir. Et là, le pape nous dit, non, chaque baptisé doit intervenir. Je cite, il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans cette transformation ecclésiale et sociale dont on vient de parler. Et que chaque baptisé regarde dans la même direction que le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, il regarde vers les plus pauvres et pas vers les monseigneurs, tiens donc. Donc, pour réveiller notre solidarité et notre engagement, voilà. On est solidaire aussi de ceux qui sont victimes. Donc le peuple de Dieu, c'est nous, c'est bien sûr le clergé, mais
oui, en fait, le pape il met le doigt sur la tentation par le passé de réduire le peuple de Dieu à de petites élites. D'ailleurs, il fustige le cléricalisme. Il va jusqu'à dire que des communautés ont été construites avec des choix théologiques, des structures sans racines, sans mémoire, sans corps et en définitive sans vie. Alors moi, je me demande comment on en est arrivé là.
Oui, c'est vrai, mais on perçoit aussi, ça c'est vraiment, je pense que c'est le miracle de l'Église, c'est qu'au travers de l'histoire, il y a eu tant et tant de déviations, de problèmes. Et puis l'Église est toujours présente, et bon, c'est vrai que le Seigneur avait garanti qu'il serait là jusqu'à la fin des temps, mais c'est vrai qu'il y a eu des abus d'autorité, des abus de pouvoir. Par le fait de la confession, peut-être il y avait aussi une emprise sur les personnes, ce qu'on appelle le cléricalisme, et puis, d'une certaine manière, en sous-évaluant la grâce baptismale, que l'Esprit-Saint, il est chez tout le monde. Lui, il ne fait pas de... Enfin, c'est lui qui décide où il va, où il souffle.
Mais est-ce que ça voudrait dire que, en fait, certains membres du clergé se placeraient au-dessus de Dieu, en fait
c'est au-dessus de Dieu, ça paraît difficile. Mais même en enlevant leur mitre, ouais. L'évêque dit « je me reconnais un pécheur indigne », mais n'empêche que c'est quand même lui qui commande. Alors bon, voilà. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être que les chrétiens ont a osé lever la main pour dire « mais ça, ça va pas ?» ou bien « pourquoi ça ?» Enfin, poser des questions. Et donc, cette condamnation du cléricalisme ou cette stigmatisation du cléricalisme, c'est peut-être se rappeler que personne n'est sauvé seul et qu'il y a un dynamisme dans le peuple.
Radio Grand Ciel.
Pour les mots de la foi, nous
parcourons la lettre au peuple de Dieu.
Oui, il nous rappelle aussi que le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Pas seulement en fait des individus, mais tout un peuple. Et donc, il nous dit aussi qu'il n'y a pas donc, d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. Et donc, on peut se poser la question de savoir comment notre peuple peut-il être sauvé ?
Alors, peuple, ça veut dire aussi, effectivement, quelquefois, cette identité a été utilisée par des autorités politiques complètement indifférentes à l'Église, mais qui utilisaient le pouvoir de l'Église, le pouvoir spirituel de l'Église, à leur propre profit. Et dans certains cas, ça a entraîné, effectivement, d'aller vers des perspectives qui n'étaient pas forcément celles de l'Évangile, c'est clair, semble-t-il, en tout cas. En tout cas, on se demande comment a-t-on pu laisser faire l'esclavage, comment a-t-on pu entrer dans la violence vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas dans la droite ligne, on nous dit l'Inquisition, enfin, on voit bien qu'il y a eu quelquefois des ratés. Bon, on a brûlé Jeanne d'Arc, certes, par exemple, mais enfin, bon, alors il y a des choses de l'histoire, et on perçoit que finalement, s'élever dans le peuple toujours d'autres spirituels, d'autres vocations. Alors, je pense, c'est les Vincent de Paul qui s'occupent justement des plus pauvres, des galériens, des femmes un peu abandonnées ou dans la rue. Et puis aussi, au XIXe siècle, tous les ordres qui se sont mis dans l'éducation. Donc, on s'aperçoit que quand même, c'est dans ce peuple, de ce peuple, que surgissent des chemins nouveaux. Donc,
Oui, c'est peut-être parce qu'en fait... Quand on est dans le peuple, il faut faire un travail intérieur peut-être pour reconnaître nos péchés, peut-être nos erreurs du passé et nous laisser renouveler de l'intérieur.
Se laisser renouveler de l'intérieur et puis se laisser renouveler par les événements. En fait, finalement, les événements se chargent de nous provoquer. Je pense par exemple comment la pandémie qui nous a obligés à regarder la messe à la télévision, à regarder la messe autrement, mais peut-être aussi à vivre des solidarités autrement. Donc, ce n'était pas simplement... Être chrétien, c'est aller à la messe, puis avoir quelques activités pour certains. Mais c'était aussi s'impliquer dans la livraison de paniers repas à ceux qui étaient isolés, à ceux qui étaient contraints par le couvre-feu de ne pas aller faire leurs courses. Et on a vu là des exemples de solidarité extraordinaires. À Dreux, par exemple, lorsqu'il n'y avait pas de masques et que les gens ont fait des masques, ont fait des blouses et ont fait des masques à l'appel de l'hôpital, mais aussi de l'Église qui a relayé cette nécessité. Mais là, on a vu... des tas de gens se mettre au service. Et là, c'était vraiment... Moi, je me suis demandé si le Saint-Esprit n'était pas dans le fil des navettes, des machines à coudre. Bon. Donc, là aussi, je crois que, quelquefois, dans cette histoire commune, où on reconnaît nos péchés, nos faiblesses, nos erreurs, et on se laisse renouveler de l'intérieur. Et puis, c'est l'histoire qui nous propose des chemins.
Oui, je pense qu'on peut aussi se laisser renouveler de l'intérieur, peut-être par prendre le temps de la prière aussi.
Et du Alors ça jeûne. Aussi, il n'y avait plus la prière organisée par l'institution, mais il y avait en même temps ces rencontres ou ces chaînes de prière. On recevait tant de messages des uns des autres que finalement, on s'est rendu compte qu'on a reconnu là des frères blessés, on a... veiller sur les plus vulnérables d'une certaine manière. Donc, on a pris des chemins pour aller vers l'autre. Oui. Et que peut-être c'est cela que propose le pape en nous disant, dans l'histoire du salut, c'est toujours le peuple, c'est toujours dans des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine, c'est dans le devoir, je cite, le devoir qui mobilise chacun et qui fait que tous appartiennent au peuple de Dieu. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que la pandémie nous a amené à observer. Et puis au contraire, éradiquons la culture de l'abus, nous dit le pape, dans nos communautés. Et cela ne peut se faire qu'avec la participation active de tous les membres de l'Église pour créer des dynamiques nécessaires pour obtenir une transformation. Ça, je trouve ça intéressant, cette dynamique pour avoir cette saine et effective transformation.
Oui, cette dynamique, elle nécessite en fait la participation de tous.
De tous, oui, y compris des structures, y compris de... Voilà, chacun. Et le moteur de chacun, c'est, nous dit le pape, récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile. Pour que surgissent, je cite, de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées, de sens renouvelés pour le monde d'aujourd'hui. Donc, regardez un peu le monde d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour nous aider à revenir à la source ?
Alors, effectivement, il nous dit la pénitence et la prière, le jeûne, pour la faim et la soif de justice. Il nous propose ici de connaître les médiations judiciaires nécessaires. Eh bien, la justice, cela passe peut-être par la justice des sociétés civiles, mais aussi eh bien, regarder avec un œil neuf la société en général, et puis exercer cette charité envers tous les hommes, tous, parce que bon, cette atteinte aux plus petits, c'était grave. Donc, faire la vérité envers tous les hommes, ça me paraissait important. Et le pape nous demande de rendre transparente la vocation à laquelle nous avons tous été appelés d'être signe et moyen de l'union avec Dieu et l'unité du genre humain. Et de regarder Marie. C'est intéressant. Marie, notre modèle.
Oui, parce que Marie, en fait, elle se tient auprès de Jésus. Elle est ferme, elle est debout à côté de Jésus par rapport à tout ce qui se passe autour. Elle ne se laisse pas non plus...
Debout, et on la trouve après la résurrection au milieu du peuple de Dieu. Et c'est elle qui aide peut-être ses disciples qui ont fui. Elle est restée. Et lorsque l'Esprit Saint est donné, eh bien, il est donné dans cette église de Jérusalem qui va permettre à tous ces disciples du Christ qui étaient partis au moment de la mort du Christ, qui se retrouvent et qui vont ensemble reprendre le chemin pour entraîner les chrétiens, l'Église naissante, mais aussi encore, notre Église est toujours naissante, pour entraîner à une Église où chaque baptisé est engagé dans la transformation ecclésiale et sociale. Grandir davantage dans l'amour et la fidélité à l'Église en contemplant Marie, c'est-à-dire... Le pape nous dit, c'est apprendre à découvrir où et comment le disciple du Christ doit se tenir. Et il nous propose que l'Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et notre décision de lutter avec courage contre les abus. Vous pouvez vous reporter à cette lettre au peuple de Dieu. Il suffit de taper sur un moteur de recherche « Lettre au peuple de Dieu » et vous retrouvez l'intégralité du texte que nous avons lu ensemble à la radio. Bonne semaine à tous, au revoir.